Bonsoir, comment allez-vous ? Si une fée ou un génie me demandait d'exaucer à titre personnel trois vœux, je ne viserais pas le futur car je ne désire rien que je n'ai déjà. Je lui demanderais de gommer du passé mes trois plus injustes colères. Injuste colère, c'est un pléonasme. La colère ne peut être juste puisqu'elle tue sans sommation, elle tue la joie, la confiance chez celui qu'elle vise. Il serait également injuste de nier le déclencheur de la colère. Le colérique a vraiment été touché. Mais comme au départ il est fêlé, comme la goutte d'eau dans la faille qui en gelant fait éclater l'édifice, le colérique éclate. La colère déboule et enfle comme une avalanche dans le couloir de « j'ai raison ». Le colérique ne peut pas raisonner, il n'a qu'une manette « j'ai raison ». Il n'active pas celle de l'acceptation qu'il confond avec la soumission. Il n'active pas plus la légèreté qu'il confond avec l'inconscience. La manette de l'intelligence, il aimerait bien la trouver, mais il ne la trouve pas. Et puis, il aimerait bien aussi trouver les freins, mais ils ont lâché. Panique à bord. La colère est un cri d'impuissance. Si l'huître avait été colérique, nous n'aurions jamais vu de perles.
Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir pourquoi dans des huîtres, des fois, il y a des perles et que dans d'autres, il n'y en a pas. Merci, au revoir.
Bonjour, Noël. Je m'appelle Anne et j'ai 10 ans. J'aime bien ton émission et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas des perles dans toutes les huîtres. Merci, au revoir.
Bonjour Anne et bonjour Philippe. C'est Anne Collet qui est biologiste qui va vous répondre. Alors Anne et Philippe s'interrogent sur les perles dans les huîtres.
Alors les perles dans les huîtres, effectivement, c'est un phénomène assez curieux. On pourrait presque dire que c'est une maladie. En fait, vous savez, les huîtres à l'intérieur, elles forment de la nacre, cette espèce de substance de la coquille qui est très douce, qui est très jolie. Et quand l'huître a un petit organisme étranger qui est rentré dans sa coquille et que ça la dérange, à ce moment aussi ça la gratte ou ça l'irrite, à ce moment-là, elle va former justement cette nacre autour de ce petit organisme étranger. Et puis, petit à petit, ça s'accumule et ça forme une très, très jolie perle. Et aujourd'hui, parce que tout le monde aime beaucoup les perles et qu'on n'en trouve pas effectivement dans toutes les huîtres, eh bien, les gens cultivent ces huîtres et on appelle ça des perles de culture. Donc, ils font exprès d'introduire dans l'huître une petite bille de verre en général et l'huître, comme ça la dérange, elle forme de la nacre autour.
Ah oui, comme nous, on peut se mettre un pansement pour pas être blessé. En fait, elle se fabrique quelque chose de doux.
Voilà, on peut imaginer que c'est un petit peu quelque chose de cette sorte. Alors, il y a plusieurs espèces d'huîtres sur la planète. Déjà, en France, on connaît les huîtres plates qui étaient très cultivées. Voilà, les belons en Bretagne. On en trouve aussi en Méditerranée. Et puis, ensuite, elles ont été malades. On a introduit d'autres huîtres, les portugaises, les japonaises, qui ont une forme un petit peu différente. Eh bien, dans les mers chaudes, il y a encore d'autres espèces d'huîtres. Et ce sont surtout celles-là qui sont cultivées pour les perles. Là encore, il y a différentes façons de faire, différentes huîtres. Et certaines font des perles qui sont très blanches, d'autres en font qui sont assez roses. Et certaines, notamment en Polynésie, c'est très connu, font des perles qui sont quasiment noires, en fait, elles sont gris foncé.
Anne Collet, vous nous dites qu'il y a plusieurs espèces d'huîtres. Effectivement, quand on les ouvre pour les manger, hein, je suis désolée pour les huîtres, il y en a des blanches, il y en a des vertes, il y en a des grises.
Alors ça, c'est pas forcément des espèces différentes. Ça peut être les mêmes. Ça dépend du traitement qu'on leur a fait subir. Et justement, dans le bassin de Marennes-Oléron, à côté de La Rochelle, c'est une grande production d'huîtres. Bon, peut-être pas différentes des huîtres bretonnes ou des huîtres méditerranéennes. Mais moi, je les aime toutes, absolument. Et là, il y a une spécialité. On appelle ça les huîtres de Claire. Et en fait, les huîtres qu'on fait grandir en mer, avant de les commercialiser, on va les laisser dans des bassins se décanter pendant 24 heures, ça suffit. Et là, dans ces bassins-là, il y a une petite algue verte qui va très rapidement coloniser l'huître et qui lui donne cette jolie couleur verte et puis un petit goût un peu différent.
Ah, c'est vrai que c'est beau. Donc, on l'assaisonne en fait avant de la consommer un petit peu.
On peut dire ça comme ça. En fait, on les met dans les bassins de Claire pour être certain qu'elles perdent un peu toute la vase. Parce que les huîtres filtrent beaucoup et ça se passe toujours dans des terrains assez plats, un peu vaseux. Et donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vase dans l'huître, parce que ça, c'est pas très bon, on les met dans ces bassins de Claire. Et en général, elles prennent cette très jolie couleur verte.
Ah non, la saison par la rince. Enfin, voilà. Elles se rincent toutes seules.
Exactement.
Anne Collet, deux espèces d'huîtres peuvent-elles se reproduire ?
Ensemble ?
Oui.
Certainement pas, puisque justement, quand on parle d'espèces différentes, par définition, ce sont justement des animaux qui ne peuvent pas se reproduire ensemble. Sinon, on parle de variétés ou de races, etc. Par exemple, les chiens peuvent être très très différents. Un épagneul et un berger allemand, ça se ressemble pas du tout. Et pourtant, ils peuvent se reproduire ensemble. Et puis, chez
d'autres... Donc, ils sont pas de la même race, mais de la même espèce.
ils ne sont pas de la même race et ils sont de la même espèce.
D'accord.
Par contre, les huîtres dont je vous parlais, il y a plusieurs espèces et ça veut dire que par définition, elles ne peuvent pas faire des petits ensemble. Bon, là encore, il y a des exceptions dans la nature, il y en a toujours. Par exemple, un âne, enfin une jument plutôt, et un âne peuvent faire un mulet ensemble.
D'accord, mais ce n'est pas la majorité du genre.
C'est très rare. Et puis en plus, quand il y a, on appelle ça un hybride, eh bien l'hybride en général est stérile. Lui-même ne pourra pas se reproduire.
Comme elle est gentille, Anne Collet, même quand je lui pose une question qui pour elle est juste monstrueuse. Anne Collet est biologiste, spécialiste des mammifères marins, grande navigatrice. Elle a passé 10 fois le Cap Horn. Il paraît qu'elle a même été portée par une baleine pendant quelques secondes et que c'est un peut-être le plus beau souvenir de sa vie. Vous écoutez Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Ethan, je suis un grand frère et je voudrais savoir à quoi sert un grand frère. Merci de répondre à cette question.
Bonsoir Ethan, c'est Elisabeth Bramy qui a écrit des livres édités chez Pocket Jeunesse ou Au Seuil pour les enfants qui intéressent bien les parents, Ethan, et qui va répondre à ta question sur les grands frères. Elisabeth Bramy, à quoi ça sert?
Ce qui sert dans la vie, c'est des objets, c'est de l'utile. On est des êtres humains, tu es un être humain. Tu n'as à servir à rien.
Si je peux me permettre, oui. Elisabeth Bramy, je ne sais pas la combientième vous êtes dans une fratrie.
La seule, seule et l'unique.
Mais c'est souvent, quand on est plus nombreux, eh bien on dit à l'aîné ou au plus grand.
Mais justement.
C'est toi qui devrais justement servir aux autres, être responsable.
Eh bien non. Eh bien voilà, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire et tout ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un grand frère, ça ne sert à rien. Il est né le premier, ce n'est pas de sa faute. C'est pas forcément une place de choix ni de roi, et ce n'est surtout pas une raison pour que les parents mettent sur le dos de l'aîné, du frère aîné, une quelconque responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Les parents font des gosses, ils ont qu'à s'en occuper. Donc, le grand frère n'a pas à s'occuper de la petite sœur, du petit frère, etc. Il peut être sympa, donner un petit coup de main, apporter une couche s'il faut, ou bien lire un bouquin si ça lui plaît de le faire, ou bien éventuellement donner un petit coup de main, aider, peut-être. Mais jamais un grand frère ne doit garder un enfant, bébé ou plus tard. Jamais un grand frère ne doit se sentir responsable de la sécurité d'un petit. Et jamais un grand frère ne doit être accusé d'aucune faute. Par exemple, si
commise
le petit,
par un plus jeune.
Oui, si un petit fait une bêtise ou si un petit tombe, on n'a pas à se jeter sur le grand frère en lui disant « Tu n'avais qu'à t'en occuper, tu es un mauvais grand frère ». C'est une catastrophe à vie, ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que être un grand frère, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Être un petit frère, c'est pareil. Dans la vie, on a une place et on ne l'a pas choisie. Et on fait avec.
Voilà la sagesse. Effectivement, nous n'avons pas la même vie suivant notre rang dans la fratrie. C'est drôle parce qu'Elisabeth Bramy a dit qu'elle était fille unique. Stéphane Combe, qui réalise cette émission, est aussi enfant unique. Donc, et en général, les enfants uniques auraient bien aimé avoir des frères et sœurs. Le dernier livre d'Elisabeth Bramy est édité chez Casterman et il concerne les vieux, figurez-vous. Une fois n'est pas coutume. Et il s'appelle Les vieux enfants. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous avez demandé si ce sont les Américains qui ont inventé le basket. Vous avez également demandé si on pouvait faire des bulles de savon qui n'éclatent jamais et si les aveugles allumaient la lumière chez eux.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'un côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et ferme les yeux. Oh. mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore t'enfante, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe l'été.
Donc, jolie chanson d'Erita Mitsuko en hommage au jour qui se lève.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous savez bien comment marchent les petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre, des questions dans tous les domaines.
Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir si les aveugles ont peur du noir et aussi est-ce qu'ils allument la lumière chez eux. Merci de me répondre.
Les aveugles ont-ils peur du noir? Un mot boicaze. Vous ne voyez pas. Vous faites des conférences, vous êtes consultant dans le domaine de la diversité. Peur du noir et allumer la lumière chez vous, demande Martin.
Martin, qu'est-ce qui fait peur dans le noir? C'est simplement l'impression d'être perdu. Or moi, je suis dans ce que tu appelles le noir tout le temps, puisqu'il ne fait jamais jour chez moi. Donc, le noir ou pas le noir, c'est exactement égal. Donc, j'ai pas peur dans le noir. En revanche, comme je reçois beaucoup de gens, j'ai pris l'habitude, systématiquement, d'allumer la lumière chez moi. Et même quelquefois, on me reproche de la laisser allumer en plein jour.
C'est pas Versailles ici.
Ben voilà. Il faut être compatible avec les nouvelles normes écologiques. Mais j'allume la lumière pour bien accueillir mes hôtes.
Mais pas pour vous.
Mais pas pour moi. Moi, la lumière, elle est dans mon cœur.
C'est joli. Cela dit, Amou Bouakaz, est-ce que vous percevez la lumière? Est-ce que, par exemple, vous savez s'il fait nuit ou s'il fait jour?
Non. Non, non, je ne le sais pas. Il y a des aveugles qui le savent, mais moi, je ne le sais pas.
Donc, vous êtes dans le noir?
Je suis dans ce que vous appelez le noir, mais qui,
pas
pour
forcément.
Moi, est le rien. Est une... Je ne vois pas. Donc, en revanche, je sais qu'il y a du soleil si le soleil me chauffe la tête ou me chauffe le visage.
Non, vous n'êtes pas dans le noir. C'est bête, ce que je dis.
Ben, on est ailleurs. On n'est pas dans le noir. On est... Le noir, c'est le nom générique qu'on a donné à l'obscurité. Ça serait plus logique de dire dans l'obscurité.
Eh bien, nous dirons dans l'obscurité. Merci pour le conseil. Vous pouvez trouver le site d'Amou Bouakaz sur le site des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 11 ans et je voudrais savoir comment peut-on faire pour que les bulles de savon n'éclatent jamais. Merci.
Bonsoir Thomas, c'est vrai que c'est un crève-cœur quand ça éclate. Étienne Guillon qui vient d'écrire « Matières et matériaux, de quoi est fait le monde » chez Belin. Alors Thomas vous demande un petit miracle en fait, Étienne Guillon. Vous êtes physicien, pas le bon Dieu mais quand même.
Ah ben d'accord, mais je suis pas le bon Dieu, mais en tout cas j'ai en plus de ça la chance d'être dans un laboratoire où avec des très très bons experts des bulles de savon. Donc c'est un jeune physicien très très astucieux qui s'appelle David Quéré qui fait ses bulles et...
On l'a reçu au
petit bateau, coince pas la bulle. En tout cas, alors une bulle, elle, d'abord pourquoi une bulle éclate? Une bulle éclate parce que une bulle c'est deux petites parois qui sont du savon. Et entre ces parois, il y a de l'eau. Les parois sont très très fines, donc la bulle est fine, mais même dans cette bulle qui est fine, il y a les deux couches qui la bordent de au-dessus et en dessous qui sont plus fines. Et l'eau, progressivement, va partir vers les bords, donc le système va devenir de plus en plus fin, et évidemment, à la fin, il va casser. Alors, d'abord, il va falloir limiter la rapidité avec laquelle l'eau part par les bords. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un matériau qui n'a aucune propriété pour la bulle, mais qui va rendre l'eau plus visqueuse. On va rajouter un petit peu, par exemple, de glycéride à l'eau. Mmh. Il y a une chose qui est un peu magique. On dit que les bulles qui vieillissent éclatent moins rapidement. Mais en tout cas, l'idée et la réponse la plus simple, c'est que si on augmente la viscosité, si on limite la rapidité avec laquelle l'eau est évacuée entre les deux couches très très minces, on a réussi. Mais il y a encore autre chose. Si vous amincissez suffisamment, il y a un moment où cette bulle, il n'y aura plus que les deux couches qui la limitent, les deux couches de savon, il n'y aura plus d'eau. Et la couche de savon, elle devient noire. On parle d'un film noir, film de Newton. Il devient noir parce que, effectivement, quand elle était plus épaisse, la lumière pouvait être renvoyée dans tous les sens, exactement d'ailleurs comme une essence, une tache d'essence qui est sur le sol. Et quand elle est beaucoup trop mince, elle est beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière, il devient noir. Et à ce moment-là, rien n'empêche la bulle de savon de vivre très longtemps. Et j'ai vu dans un musée de sciences aux États-Unis une bulle de savon qui avait duré 3 mois. Mais c'était une bulle noire, c'est-à-dire que sans c'était eau. Une bulle sans eau. L'eau avait été éliminée, mais les deux couches de savon l'une contre l'autre, elles tenaient le coup. Évidemment, il faut peut-être pas avoir des courants d'air, etc. Mais alors là, moi j'aime pas le mot jamais, parce que ça n'existe pas. Il y a un moment où ça va disparaître. Mais en tout cas, elles vont durer très longtemps. Donc, deux réponses, augmenter la viscosité de l'eau ou aller jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau et où à ce moment-là, les deux pots superficielles vont être seules en présence l'une en face de l'autre.
Il y a donc une explication à ce qui nous paraît magique. Allez, petite séquence people. Le physicien Étienne Guyon est le grand-père de Gabriel Olivera Guyon, que les auditeurs de France Musique connaissent bien. C'était Feel Good, le dernier Polo et Pan qui sont sortis cet été. Tout à l'heure, je vous ai dit que Étienne Guillon était le grand-père de Gabriel Oliver Aiguillon de France Musique. Du coup, je ne sais même pas si j'ai pensé à vous dire qu'il était surtout physicien, spécialiste de supraconductivité et d'hydrodynamique, et qu'il est directeur honoraire de l'école normale supérieure. Avez-vous écouté le journal de Frédéric Barrère? Il a terminé par un sujet sur le lancer de cailloux. Et ben nous terminons avec le lancer de ballon.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans et je voulais savoir si ce sont les Américains qui ont inventé le basket. Merci.
Bonsoir Jeanne. Fabien Archambault, vous êtes historien. C'est vrai que nous, dans notre esprit de français, ça vient peut-être du cinéma, on associe toujours basket à américain. Que pensez-vous de cette question de Jeanne ?
Elle a raison, Jeanne. Ce sont bien les Américains qui ont produit le basket à la fin du 19e siècle. Alors même si, dans la réalité, en fait c'est un Canadien, mais qui enseignait dans une institution religieuse, donc était la YMCA, donc l'Union chrétienne des jeunes gens, qui forme des missionnaires protestants pour évangéliser les États-Unis et le monde.
On est en quelle année à peu près ?
Alors on est en 1891,
ah oui,
à Springfield, dans le Massachusetts, donc en gros dans la banlieue de Boston, enfin à une centaine de kilomètres de Boston, et c'est l'école de formation des missionnaires de la YMCA. Et ces missionnaires font du sport. Donc ils font les deux grands sports qui se sont développés aux États-Unis, donc qui sont le baseball et le football américain, mais ça c'est des sports d'été. Et en hiver, on les met au gymnase. Et qu'est-ce qu'on fait dans un gymnase l'hiver ? On fait de la gymnastique suédoise, qui est assez rébarbative, donc les étudiants s'ennuient, et le directeur de l'institution demande à ce professeur d'éducation physique, qui vient de Toronto, au Canada, qui s'appelle James Naismith, d'inventer un nouveau jeu, un nouveau sport pour éviter de faire de la gymnastique. Alors James Naismith, donc il fait plusieurs essais, donc il y a des jeux qui sont refusés par les étudiants, et il a l'idée surtout qu'il faut que ce nouveau jeu ou ce nouveau sport ne soit pas violent. C'est-à-dire que le football américain et le baseball un peu moins, mais le baseball est professionnel, donc ça plaît pas à des religieux. Et le football américain est déjà très violent, puisque le football américain, c'est un dérivé du rugby anglais. Donc, il a l'idée qu'il va faire un jeu de balle, avec une balle qui est assez grosse, parce que comme ça, on ne pourra pas la lancer trop fort, donc on ne risquera pas de blesser celui qui va recevoir la balle.
Et l'idée, plus elle est petite, plus... Oui, une balle de golf dans la tête fait plus mal.
Voilà, et surtout, on peut la lancer avec plus de force. Il y a l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact, donc... En rugby, par exemple, football américain, on porte la balle. Donc il y a la règle du marché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus de 3 pas avec cette balle, après il faut la passer. Et la règle principale du basket, qui est la règle du no-contact, donc on passe la balle, et dès qu'il y a un contact avec quelqu'un, il y a faute, et donc ça est là pour empêcher ces contacts. Plus, un dernier trait caractéristique de ce nouveau jeu, qui est très religieux, c'est un jeu d'adresse, il faut lancer la balle vers un panier, qui est à 3 mètres, du sol, et donc il y a une dimension religieuse, c'est l'élévation vers Dieu. C'est le 21 décembre 1891, il fixe ces règles-là, qui sont une dizaine, et il fait jouer les étudiants, et ça marche, ça leur plaît. Et donc voilà, là où YMCA crée le basket, et comme ensuite ils ont des antennes dans tous les États-Unis, voire dans le monde, et ben ça s'est répandu avec ces missionnaires religieux. Un problème pour eux, c'est qu'en fait, la règle du no-contact, elle n'empêche pas des contacts, justement. C'est que, rapidement, en fait, le jeu, alors qu'il était là pour empêcher la violence entre les joueurs, devient quand même un peu violent. Donc, 3 ans plus tard, là où YMCA a créé un nouveau jeu, qui sera le volleyball, où là, pour être sûr qu'ils ne se rencontreront pas, on met un filet entre les deux. Comme ça, là, il n'y aura vraiment aucun contact.
Fabien Archambault, dites-moi, c'est religieux, ils jouaient en soutane ?
Non, c'est des protestants. Ils sont beaucoup moins... tenu à tout un appareil sacramentaire qui est le propre des catholiques. Mais les catholiques, en revanche, se sont emparés du basketball en France. C'est d'abord le sport des protestants, donc il est joué pour la première fois en France en 1893, donc 2 ans à peine après son invention. Donc dans le gymnase de l'Union chrétienne des jeunes gens à Paris, rue de Trévise à Paris, il y a toujours le premier terrain de basket européen. Et ensuite, les catholiques qui ont vu toutes les vertus éducatives de ce jeu qui est moins violent que le football, qu'on peut faire à l'intérieur pendant l'hiver, même si au début on faisait ça aussi à l'extérieur, et ben se sont emparés de ce sport, ce qui explique la diffusion du basket en France au départ, c'est les protestants et les catholiques, les patronages catholiques.
Les parutions de Fabien Archambault seront sur le site des Petits Bateaux. En ce moment, on voit beaucoup les maisons des États-Unis qui sont filmées pour les élections. Avez-vous remarqué que devant ces maisons aux États-Unis, il y a presque toujours sur la porte du garage un panier de basket? Vous savez à quelle hauteur il est, ce panier de basket? 3,5 m. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient 2 mètres, les gars. Qu'ils mesurent 2 mètres. Ces petits bateaux sont à réécouter ou à podcaster par franceinter.fr. Merci à Stéphane Combe, à Jean-Baptiste Audibert, à Marjorie de Voucou, à Eliane Girard, à Henri Bérec et à Noël Bréham. Nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain à partir de 19h30. Après le flash de 20h, Jérôme Guersin entouré d'Olivia de Lamberterie, de Jean-Claude Raspienjaz, de Frédéric Becbédé et d'Arnaud Vivian, parlerons de cette rune. Vous savez qu'on achetait autrefois dans les librairies en papier qui font la vie douce et trépidante, qui font la vie en tout cas, les livres.